La gloire à Dieu. Gaël a terminé en disant que nul ne pouvait venir au Père que par lui, que par Jésus-Christ. Et cet après-midi, nous allons ouvrir la parole pour voir encore exactement la même chose, que c'est Jésus qui nous conduit à Dieu, que c'est Jésus qui nous libère, que c'est Jésus qui nous éclaire. Et j'aimerais pour cela qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 33, à partir du verset 19. « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. » Amen. J'aimerais que l'on aille ensemble dans le Nouveau Testament pour voir un verset dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Il est écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Amen. Vous avez certainement remarqué, il y a un terme identique que l'on retrouve, un terme commun que l'on retrouve dans ces deux passages que nous avons lus. Il est question de rançon. J'ai trouvé une rançon. Vous savez ce que c'est une rançon ? L'argent que l'on exige, une somme d'argent que l'on exige contre la remise en liberté d'une personne retenue captive. Et en regardant, en faisant ce message, je me suis aperçu, j'ai découvert que, en regardant sur Internet les rançons, les différentes rançons qui avaient été données par différents pays, en regardant, en recherchant les plus grosses rançons qui avaient pu être données, j'ai réalisé que la France est l'un des pays qui donne le plus de rançons. Il y a des pays qui ne donnent aucune rançon. Il y a des pays comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne par exemple, qui ne donnent aucune rançon de manière financière, qui n'aident pas à ce niveau-là, sur ce plan-là, ceux qui seraient pris en otage, qui font partie de leur pays, de leur nation. Ils les soutiennent d'une autre manière, mais pas sur ce plan-là. Et la France, elle, par contre, a choisi d'adopter cette ligne de conduite, d'aider d'une manière financière ceux qui pourraient être pris captifs, voilà, prisonniers. Et alors, c'est particulier parce que quand on regarde, les rançons peuvent s'élever à des millions d'euros, parfois. Et c'est particulier parce qu'on a l'impression que... On estime le coût de la vie d'une personne en faisant cela. Parce qu'en plus de ça, il y a des limites au niveau des rançons. Même en France, il y a certaines limites. Et le pays n'est pas prêt à des moments à franchir ses limites pour aider, voilà, pour donner une rançon. Et donc c'est quand même particulier. On estime presque la vie, le coût d'une personne par cela, hein, combien coûte la vie, combien coûte notre vie, combien coûte ma vie. C'est une question, à combien vous évaluerez votre vie? En tout cas, Dieu nous dit dans sa parole, et nous l'avons lu, qu'il y a une rançon qui a été donnée pour notre liberté. Et une rançon qui vaut bien plus que tout l'or, l'argent que l'on pourrait rassembler de ce monde, qui vaut bien plus que des millions d'euros. Parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes précieux à ses yeux. Vous êtes précieux, vous êtes précieuses. Et vous qui êtes venus là cet après-midi dans ce lieu, eh bien Dieu vous dit que vous avez, oui, de la valeur à ses yeux, et parce qu'il vous aime, il a payé le prix fort. Il a payé le prix le plus grand qui pouvait être payé pour notre liberté. Alors certains peut-être pourront penser, mais pourquoi Dieu a payé le prix de notre liberté? Moi je suis libre. Je suis libre de faire ce que je veux. Voilà, j'ai ma situation professionnelle, familiale. Je fais mes propres choix et je suis pas captif, je suis pas prisonnier, je suis pas pris en otage. Je comprends pas pourquoi Dieu a payé pour ma liberté. Bien, on voit dans la parole de Dieu des hommes qui sont venus vers Jésus-Christ et qui lui ont tenu les mêmes propos d'une autre manière, avec d'autres paroles, mais qui ont pu lui dire « Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Et Jésus leur a répondu « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et qu'est-ce que le péché ? Eh bien, le péché, c'est la désobéissance à sa parole, au commandement de Dieu, qui nous apprennent, eh bien, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas convoiter. Ces commandements qui nous apprennent à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à aimer Dieu par-dessus tout. Et la parole de Dieu nous montre que nous avons tous failli, nous avons tous désobéi à ses commandements, et que par là nous sommes tous pécheurs, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que d'une manière ou d'une autre, nous avons tous désobéi. Et dans la parole, on voit justement dans la parole de Dieu, on voit un homme qui a pu expérimenter cela, qui a pu le réaliser, l'admettre, le reconnaître, et qui a pu exprimer l'expérience qui se passe quand on est captif du péché. Cet homme, c'est l'apôtre Paul, c'est cet homme de Dieu qui a pu être justement, qui a pu expérimenter ce qu'est être libéré à l'égard du péché, à l'égard de l'emprise que le péché peut avoir sur nous. Et on voit donc l'expérience qu'il décrit, elle est dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 18. Il dit « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Je crois que si on s'arrêtait tous et qu'on réfléchisse un instant à ces paroles, on réaliserait qu'on a tous été dans cette situation. Qui n'a jamais réalisé justement de ne pas pouvoir faire le bien, de faire le mal qu'on ne voudrait pas? Je fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. Et Paul donc décrit très bien cette attitude, et il explique pourquoi, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et la parole de Dieu dit par ailleurs, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, chacun est esclave de ce qui domine sur lui. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des personnes qui sont dominées par l'alcool, d'autres par la drogue, d'autres sont dominés par la colère, d'autres par la rancune, l'amertume, sont toutes ces formes du péché qui peuvent dominer certaines personnes dans leur vie, dans leur cœur, et qui nous amènent à comprendre qu'on peut être, oui, bien en liberté physiquement, mais être bien captif spirituellement, intérieurement, dans nos vies, dans nos cœurs. Captif de la rancune, l'amertume, la jalousie, l'amour de l'argent. Et certains par conséquent qui sont dominés par l'avarice, dominés par la souffrance. Nous avons lu ce passage dans Job 33 où quand on regarde le contexte, on comprend que ces paroles que nous avons lues dans Job 33, c'est un ami de Job qui a pu les lui donner. Et Job à ce moment-là était dans la douleur, vraiment dans une grande douleur, dans la souffrance. Et cet ami a pu dire à Job, donc nous l'avons lu au verset 19, « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. » Et il y a des personnes qui vivent cette lutte, comme le décrivait Paul, une lutte continue. Pour une raison bien précise, une lutte continue. Je ne sais pas si vous avez expérimenté cela ou si vous passez par là. Une lutte continue, une lutte intérieure continue, des souffrances continuelles, des douleurs continuelles. C'est Gaël qui nous disait dans les chants, qui nous partageait justement ce qu'est le bonheur, et qui disait heureux, oui, et qui disait que c'était vraiment là l'expérience de quelqu'un qui saisit le bonheur, c'est celui qui saisit le pardon de ses péchés. Et il donnait ce passage qui est dans le psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » C'est vrai, c'est ça le véritable bonheur, selon Dieu, selon sa parole. Mais quand on regarde la suite de ce psaume, eh bien, ce psaume nous dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Et par la suite, le psalmiste dira « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Et tu as effacé la peine de mon péché. Oui, Dieu a compassion de nous. Et quelle que soit votre situation cet après-midi, quelles que soient les circonstances par lesquelles vous pouvez passer, quel que soit ce qui domine sur vous, ce qui domine sur votre vie, Dieu a compassion. C'est-à-dire qu'il n'est pas insensible à ce par quoi nous pouvons passer. Et nous avons vu dans ce chapitre 33 de Job, verset 23, « Mais s'il se trouve pour cette personne qui est dans la douleur, qui souffre, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. » Dieu a compassion de lui. Et cet après-midi, Dieu a compassion de toi. La Bible nous montre combien Dieu est ému de compassion envers chacun d'entre nous. Et la compassion de Dieu, elle est réelle, elle est concrète. La Bible nous dit que l'Éternel est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qu'il est compatissant. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Et cette compassion, c'est ce qui l'a poussé à venir lui-même sur cette terre, à venir lui-même en la personne de Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous secourir. Nous avons vu dans ce passage, s'il se trouve pour lui un ange, mais ce n'est pas un ange que Dieu a envoyé pour nous secourir, pour nous sauver. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une créature spirituelle, céleste. C'est lui-même qui est venu jusqu'à nous. C'est lui-même qui a intercédé, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Et Jésus est celui qui a intercédé pour chacun de nous. Vous savez ce que ça signifie, intercéder? C'est intervenir, c'est ça la définition, intervenir auprès d'une personne qui a autorité ou compétence en faveur de quelqu'un. Intervenir auprès d'une personne en sa faveur, auprès d'une autorité qui a compétence. Et Jésus est celui qui est intervenu auprès du Père en faveur de chacun d'entre nous. La Bible nous dit qu'il a intercédé en faveur des coupables. Intercédé en faveur des coupables, quelle grâce! Et Jésus est celui qui a intercédé en faveur de chacun d'entre nous, afin que nous ne périssions pas, afin que nous ne soyons pas perdus, comme le décrit celui qui saisit la grâce de Dieu dans ce chapitre 33. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice ». Il reconnaît celui qui saisit la grâce de Dieu. Il admet qu'il est dominé justement par le péché. « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais ». C'est la miséricorde de Dieu. « Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse ». Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu, pour que notre âme n'entre pas dans la fosse de perdition, pour que notre âme ne soit pas perdue pour l'éternité en enfer, loin de Dieu, dans des souffrances éternelles. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et cette grâce, elle est encore valable pour nous aujourd'hui. On peut la recevoir, la saisir, et saisir le secours de Dieu, et être en paix avec Dieu, et avoir l'assurance que nous sommes sauvés, que nos péchés sont pardonnés. J'ai trouvé une rançon. Oui, nous l'avons lu. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus-Christ à la croix est celui qui a payé le prix. Il est cette rançon. Voilà le prix de notre liberté. Voilà le prix de notre vie, le sacrifice de Jésus-Christ, son sang versé qui n'a pas de prix. Dieu ne pouvait pas donner plus, Dieu ne pouvait pas donner plus grand. Il a tout donné, il s'est donné lui-même à la croix, afin que, oui, nous puissions saisir sa grâce, afin que nous puissions être avec lui, être en paix, afin que nous puissions recevoir le bonheur, être comblés. Comme nous l'avons pu le voir dans ce passage. Et nous avons pu lire ensemble, dans ce chapitre 33, que c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu accomplit, non pas une fois. Il écrit, voici tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Et c'est dans ce même chapitre qu'au verset 14, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Et l'on n'y prend point garde. C'est ce que dit ce passage. Cet après-midi, prends garde à ce que Dieu te dit. Prends garde à sa parole. Parce que peut-être que tu as entendu cet appel, peut-être pas une fois, peut-être c'est pas la première fois, peut-être ça fait pas la deuxième fois non plus, peut-être que c'est pas non plus la troisième fois, mais peut-être la dixième fois, la centième fois que tu entends cet appel à revenir de tes mauvaises voies, à demander pardon à Dieu, à le placer à la première place dans ta vie, à obéir à sa parole, à marcher dans ses voies. Cet après-midi, prends garde. Dieu parle encore. Dans sa grâce, il parle encore. Pour ramener ton âme à la lumière des vivants, à la lumière de sa parole, pour ramener ton âme en paix avec lui. Alors cet après-midi, que nous puissions saisir sa grâce, saisir cette grâce immense que Dieu nous fait encore, pour être secouru. Nous avons vu ce passage dans ce psaume 32 où justement cet homme pouvait dire « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Et vous savez, il y a des douleurs physiques qui sont liées à l'esprit, qui sont liées au péché. On sait combien, sans parler même de péché, combien l'homme peut, par conséquent de choc, être en réaction, subir et en conséquence une maladie. Et on voit et on comprend que par là, ce que l'on peut subir intérieurement dans nos vies, dans nos cœurs, est lié à notre corps. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Cet après-midi, le Seigneur est venu et il est là, présent dans ce lieu, même si on ne le voit pas, prêt à agir, prêt à libérer ta vie, prêt à libérer ton cœur, prêt à te guérir, à te rendre réellement, réellement libre. Justement, ces hommes à qui Jésus a pu leur dire que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, Ces hommes étaient pourtant des croyants. Ces hommes étaient pourtant des hommes religieux, des hommes qui étaient censés connaître Dieu, mais qui étaient loin de lui. Ces hommes pensaient être libres, mais ils étaient esclaves, esclaves du péché. Parce que ce n'est pas la religion qui libère, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la religion cet après-midi qui libérera ta vie, c'est de t'approcher de Jésus-Christ. C'est de t'approcher de la croix, là où il a tout accompli. C'est de la croix que la grâce coule, c'est de la croix qu'on peut saisir la miséricorde de Dieu. Alors cet après-midi, eh bien, ne résiste pas. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Mais le psalmiste dira pour lui, « Je t'ai fait connaître mon péché. » Et tu as effacé la peine de mon péché, tu as effacé mes iniquités. Et c'est ce que le Seigneur veut faire maintenant. Alors qu'on puisse eh bien terminer cette réunion justement dans la prière, en se tournant vers le Seigneur par la foi. Parce qu'il est toujours le même, il n'a pas changé. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un médiateur, qu'un seul. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et cet après-midi, c'est vers lui que nous voulons nous tourner. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce de tout notre cœur, parce que tu es celui qui libère réellement, tu es celui qui affranchit, tu es celui qui a payé le prix, le prix de ta vie. Tu es Seigneur toi-même descendu de ton ciel de gloire et tu es venu comme un simple homme. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce de tout notre cœur pour tout ce que tu as fait, encore pour cette bonne nouvelle que tu nous annonces. Encore pour, oui, cet appel à venir à toi. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ton immense amour, pour ta patience à notre égard. Parce que, comme nous l'avons lu, ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois, deux fois, trois fois dans nos vies, mais tu es ce Dieu patient. Seigneur, merci pour ta patience à notre égard. Je te prie d'étendre ta main dans ces moments encore sur ceux qui sont venus cet après-midi. Et je te prie de te révéler dans les cœurs. Je te prie d'attirer à toi, à la croix. Seigneur, je te prie de briser les liens, les chaînes, de tout ce qui, Seigneur, retiendrait captif une personne de toi. Je te prie vraiment d'intervenir dans les cœurs. Tu es venu pour ôter le péché du monde, ôter le péché de nos vies, de nos cœurs. Je te prie vraiment, Seigneur, maintenant, d'agir et d'intervenir par ton esprit. Oui, tu es, Seigneur, venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Et cet après-midi, tu veux libérer. Nous le savons, nous en sommes convaincus. Seigneur, alors te prions vraiment afin que les cœurs soient libérés, maintenant. Que, Seigneur, les corps soient guéris au nom de Jésus. Tu vois ceux qui peuvent souffrir dans leur corps. Tu as tout pouvoir, à toi tout est possible. Seigneur, je te prie d'étendre ta main aussi et de confirmer ta parole. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Amen.